RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Pour la première fois, les 5 millions d'agents des trois versants de la fonction publique, État, territorial et hôpitaux publics, vont voter ensemble le 4 décembre prochain. Ils vont déterminer la représentativité syndicale dans la fonction publique. Ce scrutin vaudra pour les 4 années à venir et donnera une photographie de la mobilisation syndicale des fonctionnaires. C'est aussi l'occasion de se pencher plus largement sur l'engagement syndical en France. Se syndiquer aujourd'hui en France, pourquoi ? Grand reportage, signé Patricia Lecomte. Patricia que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
C'est un processus absolument inédit et du coup extrêmement important, tant par le nombre d'agents qui sont appelés à voter, plus de 5 millions, le nombre d'organismes à renouveler, plus de 20 000, et évidemment aussi pour savoir qui, dans la fonction publique, au nom des syndicats, pèse quoi. C'est un vote donc qui va avoir évidemment des répercussions très importantes. C'est un processus démocratique que la CGT revendiquait et elle est donc satisfaite que ce vote ait lieu le 4 décembre.
Jean-Marc Canon, secrétaire général de la Fédération de fonctionnaires à la CGT, représente la première force syndicale de la fonction publique avec un peu plus de 25% de vote, suivi par la CFDT à 19%, en troisième FO, qui comptabilise 18%, et loin derrière l'UNSA, dont le score est légèrement supérieur à 9%. Enfin, en cinquième position, la FSU qui recueille 8% des suffrages.
Pour nous, ces élections professionnelles doivent être un événement et nous faisons en sorte que tous les agents de la fonction publique s'en saisissent pour exprimer leurs revendications et leur rattachement aussi à la fonction publique et à ses missions. Nous leur disons qu'il ne faut pas renoncer, que dans l'expression collective de nos revendications, on peut être plus fort.
Anne, professeure de mathématiques, fonctionnaire de la fonction publique d'État, est adhérente à la FSU, la Fédération syndicale unitaire, syndicat majoritaire chez les enseignants. Comme elle, les 5 millions de fonctionnaires vont désigner leurs représentants syndicaux. Cette élection représente un enjeu important, comme l'explique la présidente de la FSU, Bernadette Groison.
L'enjeu pour la FSU, c'est de redevenir la première force à la fonction publique de l'État. Et c'est bien sûr d'être représentatif à la fonction publique territoriale. C'est à la fois un défi dans une période très compliquée, très difficile comme celle que nous traversons. Et je crois que cet attachement et cet engagement que nous avons pour la fonction publique durant toute cette campagne, c'est aussi très mobilisateur pour les militants et je l'espère pour la profession.
La FSU est l'une des rares fédérations à ne représenter que les fonctionnaires. Après les élections professionnelles de 2011, elle a perdu sa place de leader dans le secteur de la fonction publique d'État pour passer seconde derrière Force ouvrière. Elle reste cependant largement majoritaire chez les enseignants, où elle recueille 83% des adhésions. Pour préserver le bastion, les militants du SNES-FSU, Syndicat National des Enseignants du Second Degré, organisent des réunions d'information. Sandra Carest, CPE, c'est-à-dire conseillère principale d'orientation depuis 15 ans, ouvre la séance.
On se réunit pour le premier stage CPE de l'année organisé par le SNES Créteil, donc qui était ouvert aux syndiqués et aux non-syndiqués. Donc, on va faire un petit peu le point par rapport à l'actualité dans notre académie, sachant que l'actualité, la prenante, ça va être les élections professionnelles. Quelle est la position du SNES et les modalités donc, pour voter qui sont un peu compliquées.
Parmi ses collègues, Jean-Michel Guizou, militant de la première heure, il n'a jamais envisagé de travailler sans être syndiqué.
Pour moi, l'activité syndicale, ça a été aussi un moyen de rester en contact avec une réflexion sur toute la profession. J'étais syndiqué parce que ça me paraissait indispensable d'être syndiqué, par principe, pour peser, pour compter. Ensuite, participer à l'action du syndicat pour voir les conditions de travail des collègues, échanger avec eux, chercher des solutions ensemble, moi, ça enrichissait ma pratique. Donc, il y a un enrichissement intellectuel, il y a une contribution au bon fonctionnement d'un métier que j'aime, et si je peux aider à ce que ça se passe bien, c'est tant mieux.
Le fait d'appartenir au syndicat majoritaire lui permet de mieux défendre ses collègues et pas seulement ceux qui appartiennent à son syndicat. Jean-Michel Guizou se dit très attaché à une certaine éthique.
Essayer de favoriser un collègue syndiqué par rapport à un non syndiqué par un jeu de chaîne entraînerait forcément des désagréments derrière pour les autres. Donc le copinage, sans aller jusqu'au népotisme, au final, ne sert pas la catégorie et ne sert pas les collègues. Donc, si on a 220 collègues qui participent à un mouvement intra-académique, On va étudier la situation des 220 collègues. Et on interviendra pour améliorer, corriger la situation de chacun de ces 220 collègues pour lesquels on verra quelque chose de possible. Du coup, si les collègues votent pour les gens qui font vraiment le boulot, c'est logique qu'ils votent pour nous.
Malgré les valeurs portées par son syndicat, Sandra, CPE en Seine-Saint-Denis, déplore une désaffection de ses jeunes collègues qui se détournent du syndicalisme.
C'est important de se syndiquer pour pouvoir connaître ses droits, ses obligations et surtout se protéger, surtout ne pas se sentir isolé. Le droit syndical, c'est très très important et c'est dommage qu'en France, chez nous, les gens se syndiquent plus, surtout les jeunes. Les gens ne sont plus dans du collectif, parce que se syndiquer implique de s'identifier à un groupe. Ça disparaît, malheureusement, au profit des intérêts individuels.
À l'issue de cette élection, on pourra mesurer le taux de participation qui, depuis le début des années 60, affiche une érosion significative. De 87% à la fin des années 50, puis à 70% au début des années 2000, il est passé à moins de 60% depuis 2010. Pour Jean-Marc Canon de la CGT, gagner la participation est l'enjeu prioritaire.
Aujourd'hui, même pour la CGT dans la fonction publique, le taux de syndicalisation reste trop bas. Moi, je ne prône pas syndicalisme sans syndiqués. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir plus de syndiqués que nous en avons. C'est un des défis que nous devons relever et sur lequel, y compris la CGT, doit s'atteler à la tâche.
C'est incontestablement dans la fonction publique qu'il y a le plus grand nombre de salariés syndiqués. À l'intérieur, certains secteurs le sont plus que d'autres. Les finances est celui qui a le plus fort taux de syndiqués. Jean est délégué syndical solidaire au ministère de l'Économie et avec ses collègues, il était il y a quelques jours à un rassemblement derrière l'Assemblée nationale pour dire aux députés le ras-le-bol et l'inquiétude des fonctionnaires face à l'austérité.
Aujourd'hui, nous ne sommes plus entendus. Au final, les agents sont inquiets, oui, parce qu'aucune annonce claire n'est faite, à part le budget qu'on voit en restriction de plus en plus. L'inquiétude des gens se traduit par un rapprochement vers nous, qui avons, étant militants, une expérience qui nous permet de décortiquer les textes complexes. Et donc, oui, on a un retour assez positif. Le syndicat, pour moi, a toujours été quelque chose de concret, d'utile au quotidien.
Si les groupes semblent sensibilisés, il n'en demeure pas moins qu'il est difficile de les mobiliser. Jean-Marc Canon.
Moi, je crois que nos troupes restent motivées, mais c'est vrai, il ne faut pas le cacher, qu'il y a, à l'égard de ce gouvernement depuis des ans, dans la fonction publique, de fortes désillusions. Les fonctionnaires, dans leur grande masse, ont le sentiment, et je crois qu'ils n'ont pas tort, que la politique actuellement menée ressemble trop à celle qui était antérieure. Et donc, le rôle, je crois, des syndicats, c'est de tracer des projets, de tracer des pistes qui permettent de garder l'espoir, que le gouvernement ne reste pas sourd aux revendications, parce que rien ne serait pire à nos yeux.
On estime aujourd'hui en France que 15 à 17% des salariés du public sont syndiqués, contre seulement 5 à 7% dans le privé. Ce faible taux peut s'expliquer par la peur de représailles de la part des directions. La pression passe aussi par le fait qu'il y a une forte individualisation des salaires. De quoi craindre l'adhésion syndicale. Mais ce n'est pas la seule raison. Les salariés reprochent aux représentants syndicaux d'être trop éloignés de leurs préoccupations. La crise du syndicalisme que nous connaissons, Guy Groux, directeur de recherche au Cevipof Sciences Po, l'explique par plusieurs facteurs.
Certains évoquent l'individualisation de la société française, mais on peut dire cela de tous les grands systèmes économiques développés. Par contre, il y a peut-être deux autres facteurs qui jouent plus sensiblement, une très forte division syndicale. Un autre fait aussi, un chômage qui effectivement s'est installé massivement en France au milieu des années 70. Et c'est vrai que ça hypothèque profondément le fonctionnement des relations sociales en France. Enfin, un troisième élément qu'il ne faut pas non plus écarter, c'est le fait que les syndicats auparavant étaient souvent porteurs de projets de société. Qu'il s'agisse d'un projet social-démocrate ou d'un projet plus radical, voire plus révolutionnaire. La CGT, par exemple, pendant longtemps, était liée au Parti communiste français et défendait un projet de société socialiste. Or, aujourd'hui, incontestablement, on peut dire que cette espèce de mission purement tribunicienne, fondée sur des convictions qui étaient portées par les syndicats, n'existe plus aujourd'hui. Ces trois facteurs font cette crise du syndicalisme que nous connaissons.
Mobilisés sur des projets de société, les syndicats de la fonction publique en sont pour le moment à tous demander la revalorisation du point d'indice qui sert de base de calcul du salaire des fonctionnaires. Malgré leurs multiples manifestations, leurs revendications restent lettre morte. Jean-Marc Canon.
C'est une question de justice sociale, mais aussi d'efficacité économique. plus d'un million d'agents dans la fonction publique payés au SMIC ou en dessous parce qu'à temps incomplet imposé. Les cadres de la fonction publique aujourd'hui ne sont plus recrutés qu'à 10% du SMIC. Ils l'étaient à 75% il y a 20 ans de ça.
Est-ce que c'est pas un aveu d'échec voir aujourd'hui que le point d'indice est gelé depuis 2010 et peut-être jusqu'à 2017?
C'est clair qu'on ne peut pas dire qu'il y a une victoire. Tous les syndicats portent l'augmentation de la valeur du point, tous, et on ne l'a pas obtenu. Alors, sentiment d'échec, je ne sais pas comment dire, parce qu'évidemment, le résultat est binaire dans ce genre de truc. En tout état de cause, ce n'est pas ça qui va décourager la CGT. Nous ferons en sorte, très rapidement, de reconstruire d'autres mobilisations unitaires la plus large possible pour continuer à dire qu'il faut augmenter le salaire des fonctionnaires.
La France connaît un réel paradoxe. C'est le pays où il y a le plus d'organisations syndicales avec le taux le plus faible d'Europe de syndiqués. On prend souvent comme exemple les pays du Nord qui, à l'inverse de la France, affichent une forte adhésion. Mais pour Axel Persson, cheminot à la SNCF, ces chiffres cachent une autre réalité.
En Suède, le pourcentage de syndicalisation est très élevé. En revanche, ce qui est dominant historiquement en Suède, et c'est vrai en Allemagne aussi, c'est pour le coup le lien entre la social-démocratie et les syndicats, qui a un rôle, je veux dire, assumé, c'est dans leur statut, et qui aujourd'hui sont plutôt dans une optique justement de co-gestion, de dialogue social. Les syndicats sont intégrés dans la gestion, mais vraiment pratique. Par exemple, les assurances chômage, dans certaines branches, on ne peut pas recevoir d'allocation chômage si on n'est pas syndiqué. Ce qui explique que c'est une vision beaucoup plus clientéliste qu'elle est en France, où bien souvent, même si c'est pas toujours le cas, c'est une vision assez militante quand on rentre dans un syndicat. Ce qui explique aussi d'ailleurs les capacités de mobilisation très contradictoires. Quand je rencontre mes camarades allemands ou suédois qui ont des taux de syndicalisation beaucoup plus élevés, souvent ils sont étonnés de la capacité des syndicats en France, avec si peu de syndiqués finalement en proportion, de causer autant de grabuges. Parce que justement, c'est pas vraiment la même vision du syndicalisme.
Il y a des syndicats qui préfèrent adopter une position protestataire, voire radicale, d'autres qui préfèrent adopter une position plus contractuelle, davantage portée sur le compromis. Mais peuvent-elles être complémentaires, Guy Groux?
Celui qui crie fort, qui proteste vigoureusement, peut jouer un rôle d'alerte. Et celui qui signe des accords peut jouer effectivement un rôle qui fait que les choses se transforment autant que faire se peut au niveau de l'entreprise. Ceci étant, je crois qu'il faut quand même pas occulter le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de syndicats pensent que pour accompagner les vraies réformes dans le monde du travail, la négociation est devenue tout à fait prioritaire. Bon, je pense bien sûr en disant cela à la CFDT. D'autres syndicats pensent qu'il y a de telles menaces qui pèsent non seulement sur l'emploi, sur l'économie, voire en termes de souveraineté nationale, qu'il faut résister. Ceci étant, il faut faire très très attention aux mots, parce que parfois, l'appel à la colère sociale cache aussi beaucoup d'impuissance du point de vue des possibilités de faire. Ces espèces de jeux de distinction entre les syndicats relèvent de la division des syndicats et ne renforcent certainement pas, au regard des salariés, le syndicalisme d'une manière globale et générale.
Les mouvements durs les plus emblématiques sont ceux de la SNCF, où la CGT est le syndicat majoritaire. Pour Pierre Gognot, secrétaire général du syndicat CGT cheminots de Trappe et conducteur de train, c'est le patronat qui pose clairement le postulat.
D'une certaine façon, c'est le patronat qui met en place une espèce d'état de guerre permanente, puisque vis-à-vis des salariés, il y a une violence absolument incroyable tous les jours. Enfin, j'attends encore ce matin qu'Edouard Leclerc a embauché des gens gratuitement. Il y a deux options, soit on s'institutionnalise et on passe son temps à discuter, à tergiverser avec le patron. Bien souvent, ça ne mène à rien, puisque ça devient des chambres d'enregistrement. Donc au final, il arrive un moment où quand les travailleurs pensent que là, c'est trop, le seul moyen de faire pencher la balance, eh ben, c'est le rapport de force, c'est l'envahissement ou alors des préavis de grève.
Et vous avez le sentiment que quand on va jusqu'au bout, c'est payant?
C'est toujours payant. Une bataille, elle n'est jamais perdue d'avance. On a un vieux dicton qui dit que la lutte nourrit la lutte. Quand il y a des luttes qui se mettent en place, y compris les travailleurs qui n'ont pas forcément l'envie de s'inscrire dans cette lutte-là, forcément, ils vont être amenés à se poser des questions. Et nous, notre rôle, c'est d'élargir le plus possible pour qu'on puisse avoir un rapport de force qui permette de renverser la vapeur et que on reprenne un peu le contrôle de nos vies, tout bêtement, quoi.
Renouveler l'image, c'est l'un des défis des syndicats français. Teintés d'archaïsme, voire de dogmatisme, liés à leur histoire, celle des grandes conquêtes sociales, le syndicalisme inspire aujourd'hui de la défiance. Robert Zarader dirige le cabinet de conseil Equancy & Co. Il compte parmi ses clients des acteurs sociaux.
L'image des syndicats, elle est avant tout marquée par cette dimension d'attente des salariés qui a énormément évolué. D'une tradition de lutte, de conflit, de défense des intérêts des travailleurs, comme on disait à l'époque, on est aujourd'hui face à une demande qui est beaucoup plus une demande de service, d'accompagnement, qui va prendre des dimensions bien évidemment sociales, économiques, mais qui a aussi des dimensions juridiques, sociétales, et les syndicats doivent, en tout cas essayer, de s'adapter aux nouvelles attentes des salariés. C'est l'enjeu aujourd'hui à la fois d'image et de réputation des syndicats français. Non, le syndicat n'est pas mort en France. Il continue d'avancer. Peut-être que certains aspects, il doit accélérer, se moderniser et se rajeunir. Ça, c'est une évidence. Les syndicats doivent bien comprendre qu'ils sont mortels. Et la façon d'y répondre, c'est d'avoir un discours beaucoup plus moderne et la volonté très vite de faire que l'engagement dont font preuve les jeunes dans d'autres domaines soit aussi un engagement dans le monde du syndicat.
Se syndiquer aujourd'hui en France, pourquoi ? Un grand reportage de Patricia Lecomte à la réalisation Marc Minatel.
Patricia Lecomte, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors les fonctionnaires français sont donc des agents de l'État, mais tous ne sont pas rattachés à la même fonction publique. Dans le sujet, vous parlez de la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Qu'est-ce qui les distingue ?
Bien qu'elles aient un statut général commun, Laurent, chacune est régie par des dispositions particulières. La fonction publique d'État regroupe les administrations centrales de l'État, comme par exemple les ministères qui sont à Paris, et puis aussi les services déconcentrés que l'on retrouve dans les régions, comme les préfectures, les rectorats et l'enseignement, avec ses universités, ses lycées et ses collèges.
Les enseignants sont donc rattachés à la fonction publique d'État.
Très bien Laurent, vous avez bien écouté. Alors on continue avec la fonction publique territoriale. Celle-ci concerne les emplois liés à la commune, au département ou à la région. Par exemple, le jardinier qui prend soin des espaces publics dans votre commune est un agent territorial. Ils sont 1,4 million et représentent plus du quart de l'ensemble des fonctionnaires.
Alors là encore, j'ai bien écouté. Et la troisième fonction publique est l'hospitalière. Alors celle-là, on la comprend un peu mieux.
Et oui, c'est l'ensemble de tous les emplois que l'on retrouve au sein des hôpitaux publics, des maisons de retraite publiques, ainsi que des établissements publics dédiés à la réadaptation sociale, aux handicapés ou encore aux mineurs. Mais attention Laurent, le personnel médical, c'est-à-dire les médecins, les biologistes, les pharmaciens, eux ne sont pas fonctionnaires.
Et à eux tous, si j'ai bien compris, ils forment les 5 millions de fonctionnaires qui vont voter le 4 décembre. Est-ce que ce droit de vote, les fonctionnaires l'ont obtenu facilement ?
C'est un droit assez récent. La première grande grève des fonctionnaires a eu lieu en 1953. C'est donc après la Seconde Guerre mondiale que le syndicalisme chez les fonctionnaires est apparu. Pendant longtemps, en tout cas une bonne partie du 19e et du 20e siècle, on considérait que les fonctionnaires étaient au service de l'État, qu'ils avaient des devoirs à l'égard de leur administration et qu'ils ne pouvaient en aucun cas contester l'autorité de leur hiérarchie. Pour mémoire, Laurent, le Premier ministre Michel Debré avait déclaré qu'un fonctionnaire est là pour obéir. Le droit syndical et le droit de grève ont été inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946, puis ont été confirmés dans la Constitution de 1958.
Alors depuis, ils se sont rattrapés, puisque ce sont eux qui, en France, sont les plus syndiqués, et le vote du 4 nous dira si ce sera encore le cas.
Et ce rendez-vous inquiète, Laurent, les syndicats qui craignent un taux de participation insuffisant. Ils incriminent le mode de scrutin, c'est-à-dire le vote électronique. Les précédentes élections se sont déroulées pour la première fois par ce système électronique et ont laissé un goût amer aux syndicats. Trop compliqué selon eux et pas forcément accessible, le dernier vote électronique leur a valu une perte importante de participants. Alors bien qu'ils espèrent cette fois-ci que l'organisation soit meilleure, ils craignent qu'au travers de ce vote se cache la volonté de déstructurer la solidarité syndicale dans la fonction publique.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter sur
RFI.fr bien sûr.
Patricia Lecomte, merci beaucoup. Bonne journée.
Jour, Accent d'Europe vous propose...